Terre, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur l'enseignement supérieur et la recherche. Voici un exemple supplémentaire de cette campagne invisible que nous scrutons dans Le téléphone sonne. Les candidats ont évidemment des propositions en la matière, des programmes dont certains sont fournis et précis. Mais à aucun moment, ce sujet crucial n'a suscité le moindre échange entre les 11 prétendants. Pourtant, sur le financement public ou privé de la recherche, sur la recherche fondamentale et la recherche appliquée, sur l'autonomie des universités et leur regroupement, sur le budget alloué par l'État, sur la sélection, sur tous ces sujets, il existe des choix, des alternatives, des politiques différentes, des options qui méritaient d'être débattues. Eh bien, on va le faire jusqu'à 20h sur France Inter.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr, 01 45 24 7000. Trois moyens pour nous joindre et participer à ce téléphone sonne. J'accueille avec grand plaisir Fabrice, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue, nous vous écoutons Fabrice.
Donc, oui, je voulais témoigner parce que je suis professeur à l'université de Montpellier, donc je suis à la fois enseignant et chercheur en physique fondamentale. Et donc, les deux aspects, l'enseignement supérieur et la recherche, me sont assez connus quotidiennement. Et donc, au niveau de l'enseignement supérieur, ce que j'ai pu constater, parce que j'ai 55 ans et donc au cours de ma carrière, j'ai pu constater une certaine évolution, c'est que les étudiants qui arrivent à l'université ne sont pas préparés à utiliser le raisonnement dans leur cursus et sont très préparés pour l'apprentissage des connaissances et le fait de les restituer, mais de les utiliser pour ensuite raisonner et en déduire des choses nouvelles, ils sont assez peu préparés. Et ça ne s'arrange pas. Et comme il se trouve que j'ai aussi un fils qui est en seconde, j'ai pu voir aussi des amis qui ont des enfants d'âge similaire. J'ai pu voir en effet qu'en comparant avec ma scolarité dans les années 70, qu'on demande à des démonstrations et d'ailleurs des raisonnements construits aussi en français ou en histoire géo, beaucoup plus tard, seulement à partir de la troisième, alors que nous on en demandait déjà dès la sixième. Donc ça, je vois donc une impréparation et qui a des conséquences négatives parce que évidemment on doit remettre à ce niveau-là les étudiants et on perd du temps. Et donc sur un master, on perd la première année pour un petit peu faire ça. Et même à la troisième année au niveau du L3, de la licence, de la fin de la licence, c'est pas encore complètement ça. Et puis sans doute on doit perdre en chemin des étudiants qui sont démotivés par le fait qu'on ne les a pas, ou des lycéens qui sont démotivés par le fait qu'on ne les a pas sollicités sur la chose la plus amusante de la recherche, de la connaissance, qui est le raisonnement, la déduction, qui est presque un jeu.
Voilà. Oui, alors voilà pour ceux qui entrent à l'université, et on va bien entendu en parler. Pour ce qui est de votre métier de chercheur, comment l'avez-vous vu évoluer? Vous avez dit que vous aviez 55 ans, donc au fil des ans, est-ce que vous avez vu, une dégradation, un maintien de la qualité, une évolution quelconque?
Alors, un aspect qui est pratiquement charnière, c'est le fait que il est de plus en plus difficile de recruter des doctorants. Donc ça, c'est très clair et ça s'est vraiment pas arrangé en 10 ans, dans les 10 dernières années. Auparavant, j'ai pas vu de dégradation, mais dans les 10 dernières années, ça s'est vraiment pas arrangé. Et donc on a à ce moment-là le problème, on a vraiment la charnière entre l'enseignement et la recherche, parce que quand on recrute un doctorant, on va encore lui apprendre des choses, mais il commence déjà à faire de la recherche. Ensuite, en ce qui concerne la recherche pure, la partie recherche faite par les chercheurs ou les enseignants-chercheurs, ce qu'on constate, c'est que c'est la foison de guichets pour obtenir des financements qui n'arrêtent pas d'augmenter et surtout le fait que on cherche à faire une recherche orientée à but fini. Moi, je suis dans la recherche fondamentale, hein, la physique des hautes énergies, la recherche qui se fait au CERN, les rayons cosmiques, la cosmologie, ces choses-là. Et donc, la recherche fondamentale, je prenais les deux exemples très simples. Hein, Albert Fert, prix Nobel de physique, je crois, en 2007, prix Nobel de physique français. Il travaillait sur la loi d'Ohm, la fameuse loi V égale RI, hein, qui est complètement fausse d'ailleurs.
Enfin, mais je vous fais confiance surtout.
Voilà, enfin, la relation entre la tension et le courant dans un circuit électrique, et personne, aucune agence nationale de la recherche n'aurait financé ses recherches. Il est abouti à la découverte de la magnétorésistance géante, qui est à la base de tous nos disques durs dans tous nos ordinateurs. Madame Barré-Sinoussi, quand elle s'intéressait à ces bizarres rétrovirus qui utilisaient l'ARN, etc., personne ne finançait ses recherches. Alors qu'ensuite est apparu le sida, et à ce moment-là, heureusement qu'il y avait des gens comme elle qui s'étaient intéressés pour des raisons fondamentales et de pur intérêt scientifique à ces choses-là auparavant. Donc, le problème, c'est que, à la fois, on se trompe, c'est-à-dire que ce n'est pas efficace fondamentalement, cette démarche, parce que c'est pas en améliorant quelque chose qu'on va inventer quelque chose de véritablement nouveau. On n'améliore pas la bougie pour trouver le laser, hein, et d'un côté, et puis de l'autre côté, on nous fait perdre un temps fou à aller chercher des petites sommes ridicules par-ci par-là pour enfin arriver à avancer dans nos recherches. Et on voit régulièrement le temps passé à faire des projets et à les soumettre, et aussi à les évaluer en tant que collègues, où on doit aussi participer au processus d'évaluation des projets proposés par les autres. On voit le temps qui est mangé, le temps qui est consacré à la recherche pure, qui est mangé par ces effets-là.
Merci Fabrice pour cette intervention d'ouverture au téléphone sonne, intervention extrêmement riche qu'on va soumettre à nos invités. Christine Musselin, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice scientifique de Sciences Po, auteur de La Grande Course des Universités aux presses de Sciences Po. Avec nous également Léonard Moulin, bonsoir.
Bonsoir.
Chargé de recherche à l'INED, membre des économistes atterrés, co-auteur de Arrêtons les frais pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur. C'est publié chez Raison d'agir. Sonia Bourane, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des questions d'éducation à France Inter. Alors, Christine Musselin, je vous livre le long témoignage de Fabrice. On va peut-être commencer par le commencement, à savoir ce que Fabrice notait à 55 ans quant à la baisse de niveau des étudiants qui arrivent à l'université. Baisse de niveau, donc, juste après avoir obtenu le bac.
Oui, alors je ne sais pas s'il a vraiment parlé de baisse de niveau, mais plutôt
d'incapacité
à raisonner. De compétences à raisonner qui n'étaient pas aussi développées que lorsqu'il a fait ses études. Tout ça est bien sûr très difficile à vérifier. J'ai pas du tout le même sentiment, mais c'est vrai que je suis pas du tout physicienne. Peut-être que c'était différent quand on est en sciences humaines et sociales. Mais il est certain que, effectivement, si on veut essayer de transmettre la recherche, on ne peut le faire que relativement tard à l'université. Et on voit bien que même au niveau master, on n'a pas toujours des étudiants qui sont complètement préparés. Alors c'est certainement lié au système scolaire. C'est lié aussi, je pense, aux premières années à l'université, où on a quand même beaucoup d'étudiants qui sont soumis à une sélection très féroce. J'insiste sur ce point, c'est un point qui me tient souvent à cœur parce que on discute beaucoup de la sélection à l'entrée à l'université. C'est vrai que dans beaucoup de filières, encore aujourd'hui, il n'y a pas de sélection à l'entrée, mais il y a une sélection très très forte par le découragement, ce monsieur en parlait, mais aussi parce qu'il n'y a pas toujours d'accompagnement.
Oui. Et puis par le niveau, tout simplement, ça devient compliqué, difficile.
Oui, enfin peut-être par le niveau, mais peut-être qu'on arriverait à rehausser le niveau si on avait un accompagnement plus présent des étudiants. Je crois que les témoignages d'étudiants, quand ils arrivent à l'université, c'est quand même qu'ils sont un peu seuls, c'est quand même qu'il n'y a pas véritablement d'accompagnement pendant les premières années. Il faut comprendre de nouveaux codes, il faut comprendre de nouvelles normes, et c'est vrai que c'est difficile.
Léonard Moulin.
Alors sur le problème de pédagogie, alors sur le problème de compétences des étudiants, je pense qu'en fait le sentiment qu'il ressent, même s'il est effectivement difficilement vérifiable, c'est celui qui est lié au fait que les enseignants du secondaire, puisque c'est ça le problème en fait dont il parle, c'est le fait que les compétences acquises au cours de l'enseignement secondaire seraient plus les mêmes et seraient moins à même de préparer à l'enseignement supérieur. Et en fait, la formation des enseignants du secondaire a changé. On a eu la suppression des UFM et la mise en place des ESP. Et donc je pense pense que c'est là l'un des points du sentiment qu'il saisit, puisque ça correspond à peu près à la même période. Voilà, sur la sélection, puisque c'était ça qui était un peu en trame de fond, je pense que c'est un faux débat, parce que il y a deux sources de deux raisons invoquées dans le débat public sur la sélection. C'est le fait qu'il y aurait trop d'étudiants, donc de répondre à un choc démographique par la sélection. Or, dans les années 60, lorsqu'on a eu une généralisation de l'université, cet argument était absolument pas évoqué. Ça posait absolument pas de problème que les enfants d'héritiers accèdent à l'enseignement supérieur. Et la deuxième raison qui est évoquée, c'est celle de l'abandon, puisqu'on a des taux d'échec en licence qui sont très importants. Mais en fait, si on regarde un peu plus en détail ce phénomène, le phénomène de non-réinscription est stable depuis les années 60. Il oscille autour de 25%, alors avec des différences selon les filières, mais il est relativement stable. Le taux d'abandon est inférieur à la moyenne de l'OCDE. Et en fait, il cache des réalités très diverses. Quand on s'intéresse un peu à la catégorie administrative de l'abandon, on s'aperçoit que c'est des étudiants qui finalement ne se réinscrivent pas parce qu'ils ont réussi à obtenir une place dans une filière sélective l'année suivante, parce qu'ils ont réussi à aller dans l'enseignement supérieur privé, là où ils voulaient aller, mais la première année, il y a eu un problème de, entre guillemets, d'adéquation. Voilà. Et je voulais rebondir aussi sur la recherche.
Oui, alors ça, c'était un point très important, la recherche orientée, comme disait Fabrice, et la part de plus en plus limitée faite à la recherche fondamentale, dont on sait que c'est à partir du moment où on fait de la recherche fondamentale et qu'on en fait beaucoup, et Fabrice le disait bien, qu'il peut y avoir des applications à tel ou tel moment. Mais il faut laisser à la recherche fondamentale du temps avant de penser à la recherche appliquée. Je ferme la parenthèse et je vous rends la parole, Léonard Moulin.
Merci. Effectivement, donc il y a plusieurs candidats à l'élection présidentielle qui proposent en fait une continuité avec ce qu'on connaît depuis plusieurs années, à savoir un financement croissant de la recherche par appel à projet. C'est notamment le cas de François Fillon, d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Et en fait, le problème que ce financement par projet pose, c'est qu'avant, la recherche était le fruit, comme vous venez de le dire, en fait, d'un processus de questionnement sur des thématiques qui étaient librement déterminées par les chercheurs et donc à l'intérieur de la science, qui s'inscrivait dans un temps long. Et aujourd'hui, les appels à projets font que la recherche est jugée à l'aune de sa contribution à l'économie. Il faut qu'elle ait des applications industrielles concrètes, des rendements économiques privés. Et c'est exactement ce qu'il décrivait dans son témoignage, à savoir que la physique était fondamentale et qu'aujourd'hui, il doit trouver des sources d'application. Et donc, les appels à projets édictent aujourd'hui des priorités de la recherche qui viennent d'en dehors d'elle-même.
Extrinsèque, oui.
Voilà, extrinsèque. Et donc, pour terminer sur cet argument, je pense que voilà, le vrai problème des appels à projets, c'est qu'ils dénaturent les processus de la recherche en les inscrivant dans des temporalités marchandes qui sont par définition courtes et qui correspondent absolument pas au temps de la recherche.
Sur la recherche fondamentale, orientée, appliquée, Christine Musselin.
Oui, moi je vois les choses un petit peu différemment. D'abord parce que la recherche sur projet, elle commence vraiment en France à la fin des années 50. Hein, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas nouveau. Que par ailleurs, la recherche sur projet est ce qui finance dans une grande mesure la recherche aux États-Unis. Ça n'a pas empêché d'avoir des prix Nobel et d'être la nation qui est quand même une des premières au monde en matière scientifique. Donc je pense que c'est pas la recherche sur projet en elle-même qui pose problème. C'est effectivement le fait que les sommes qui sont affectées ne le sont pas toujours de manière suffisamment pérenne, c'est-à-dire pour assez longtemps. C'est le fait que, par ailleurs, il y a des orientations à certains moments qui sont prises effectivement en faveur de la recherche appliquée. Je crois que là, on peut voir des périodes même différentes. Enfin, c'est le sujet du livre que j'ai écrit, de dire que ça s'appelle « La grande course des universités ». Et un des arguments, c'est de dire qu'il y a un très fort renforcement de la compétition au cours des 15 dernières années. Donc ça va dans le sens de ce qui a été dit. Mais en même temps, quand on regarde les différentes périodes dans ces 15 dernières années, on voit bien que au moment où l'ANR est créée, en fait, elle remplace des mécanismes d'attribution sur projet qui existaient auparavant et on les centralise dans une même agence. Mais ils existaient déjà auparavant. Et dans les premières années, l'ANR finance beaucoup de projets blancs et ces projets blancs laissent la place à la recherche fondamentale. Ce n'est que récemment que l'ANR s'est réorientée sur des défis sociétaux à l'image de ce qu'on fait au niveau européen et où finalement quelque chose de plus appliqué est attendu de ces projets de recherche.
Est-ce qu'en France, quelque chose s'est défait du point de vue de la recherche fondamentale ?
Moi, j'ai pas le sentiment que quelque chose se soit défait du point de vue de la recherche fondamentale. En France, il faut pas oublier quand même que la plupart des chercheurs publics sont financés par l'État. On est très très loin de ce qui peut se passer en Grande-Bretagne, où parfois les chercheurs doivent financer par leur contrat de recherche leur propre salaire. Donc il ne faut pas oublier ce financement qui est quand même extrêmement important. Et je ne pense pas qu'on soit que la recherche fondamentale soit véritablement en danger en France, parce qu'il y a quand même de très grosses infrastructures, parce qu'on a quand même aussi des effectifs conséquents qui travaillent sur ces questions-là.
Sonia Boran, puis Amine au standard.
Oui, je voulais revenir sur la question du niveau des étudiants qu'évoquait l'auditeur tout à l'heure, Fabrice.
Oui.
En fait, derrière tout ça, il y a aussi la question de l'orientation. Et d'ailleurs, il y a très peu de candidats en parlent de l'orientation des élèves. Mais par contre, parlent effectivement qu'il faudrait des prérequis pour accéder à certaines filières. Alors, peut-être qu'il y a une réflexion à mener là-dessus, puisqu'on voit qu'il y a quand même de plus en plus d'étudiants à l'université, hein, 30 000 chaque année, et ça va continuer à augmenter, avec des étudiants qui ont de plus en plus de bacheliers généraux, donc qui vont faire des études plus longues.
Qui veut réagir sur ce point-là, Christine Musselin, pour commencer, Léonard Moulin après.
Je crois que de toute façon, il faut s'attendre à cela et faire avec. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer dès demain l'école, les lycées, les collèges. Donc, pendant encore plusieurs années, les étudiants qui vont arriver à l'université auront les caractéristiques de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Et je pense qu'effectivement, les prérequis et l'orientation, c'est quand même une solution intelligente. Moi, je suis personnellement contre la sélection à l'entrée de l'université, parce que je pense que on n'a pas toujours finalement développé toutes ses capacités à l'école et qu'il faut laisser une chance dans les premières années de pouvoir se réorienter. Mais il faut le faire en suivant vraiment les étudiants, en sachant ce qu'ils deviennent, parce que les chiffres qui étaient que vous donniez tout à l'heure sur le fait que les étudiants finalement vont vers d'autres filières après, ils sont très difficiles à avoir, ces chiffres-là. Et vous le savez, je pense que vous avez travaillé dessus, parce que justement, il n'y a pas toujours ce suivi pour s'apercevoir de ce que deviennent les étudiants qui décrochent d'une filière à un moment donné.
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs au standard. Je passe rapidement la parole à Léonard Moulin, pardon, et Amine ensuite.
Alors, très rapidement sur la sélection, parce que c'est effectivement le cheval de bataille de plusieurs candidats, dont Emmanuel Macron, qui ne le cite pas explicitement, mais qui utilise le terme de prérequis et d'acquis minimaux. Je pense qu'en fait, la sélection va renforcer les inégalités qui existent déjà à l'entrée de l'université en fonction de l'origine sociale, et que l'université, elle, de la même manière que l'enseignement secondaire avant, ce qui est plus vraiment le cas, puisqu'on a un déplacement on a un déplacement du processus de sélection au fil des études, et qui arrive aujourd'hui au niveau du baccalauréat, et c'est pour cela, sans doute, que la question de la sélection se pose. Mais voilà, à mon avis, elle renforcerait les inégalités sociales dans l'enseignement supérieur.
Amine, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Moi, je voulais évoquer en fait le sujet de l'insertion en fait sur le marché du travail, l'insertion professionnelle des étudiants en fait provenant de l'université. Moi, j'ai été moi-même en fait à l'université. Et j'ai pu en fait expérimenter que j'ai fait d'abord une université en fait entre guillemets en banlieue parisienne, et ensuite une université beaucoup plus connue à Paris. Et à la sortie de l'université en fait de banlieue parisienne, j'ai pu m'apercevoir en fait que c'était très compliqué de m'insérer en fait d'un point de vue professionnel. Pour trouver un stage, pour trouver un job, malgré le fait que je faisais une filière en plus très très technique, en sciences de gestion, etc. Et donc j'ai dû compléter mon cursus par une université beaucoup plus connue et qui a un petit peu la coloration un petit peu d'une école de commerce. Et donc je trouve que c'est très compliqué de s'insérer professionnellement quand on vient pas d'université très connue, ou en tout cas quand on vient d'université classique, c'est très compliqué de s'insérer sur le marché du travail. À tel point qu'aujourd'hui, moi j'ai des enfants, je préférerais les orienter même vers des écoles, soit d'ingénieurs, soit d'écoles de commerce, de seconde zone ou troisième zone, parce que je pense qu'elles auront plus la capacité de les insérer d'un point de vue professionnel que de les mettre dans une université lambda au niveau, que ce soit du territoire ou au niveau de l'Île-de-France.
Bien compris, Amine. Bien compris. Merci pour votre intervention. La parole à Christine Musselin.
Oui, c'est vrai, quand on sort de l'université, il est souvent plus compliqué de trouver un emploi que quand on sort de certaines écoles. Pour autant, moi je pense que c'est très difficile de réagir sur un témoignage. Il faudrait regarder les chiffres, et je ne les ai pas là sous les yeux, mais on sait quand même que plus on on obtient un diplôme élevé, plus les chances d'obtenir un emploi restent fortes.
Ça, et ça,
c'est quelque chose qui reste tout à fait vrai. Alors après, selon les disciplines, selon les filières, selon effectivement le lieu où on est allé à l'université, il y a des différences importantes, ça c'est certain.
Léonard Moulin, sur ce témoignage et sur le fait, disait Amine, qu'il préfère envoyer ses enfants dans des filières sélectives de deuxième et troisième zone plutôt qu'à l'université, où le débouché vers l'emploi est compliqué. Alors peut-être que vous allez prendre les mêmes précautions que Christine Musselin, mais je vous donne la parole avec tout de suite avec bonne volonté.
Alors, je pense que le témoignage d'Amine est révélateur du fait, en fait, que les universités et enfin l'offre de formation dans l'enseignement supérieur est pas égalitaire, donne pas les mêmes diplômes. En tout cas, ils sont pas reconnus comme tels par les employeurs. Pour le cas uniquement des universités, normalement, l'État assure que les diplômes qui sont délivrés ont la même valeur où que ce soit sur le territoire. Or, dans le témoignage, on voit bien qu'entre université parisienne, université de banlieue parisienne, il racontait qu'il avait pas eu les mêmes opportunités à l'issue de ses études.
Qu'il avait fallu faire les deux, du coup.
Et qu'il avait fallu faire les deux. Je pense, et il faudrait regarder les chiffres, mais je pense que c'est plus ou moins vrai comme témoignage. Il y a plusieurs études économiques qui vont dans ce sens-là. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est essayer de remettre une cohérence sur le territoire, d'affirmer vraiment au niveau étatique que le diplôme est le même entre toutes les universités au sein des filières, et qu'il faut faire très attention à la notion d'employabilité qui conduit en fait à transformer les études, à essayer de les arrimer un peu plus sur le monde économique. Et ça peut avoir des effets dévastateurs sur la formation.
Christine Musselin, vous vouliez ajouter un mot, puis Sonia.
Oui, je suis pas sûre que l'équivalence entre les diplômes garantisse l'emploi, parce que finalement, ce sont les employeurs qui décident des recrutements. Et avant, on avait des maquettes universitaires qui garantissaient une certaine équivalence entre les diplômes. Il y avait aussi de grandes différences dans les recrutements.
Sonia Bourane.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, publier les taux de réussite et les débouchés professionnels de chaque formation pour chaque université? Avoir plus de transparence, peut-être?
Léonard Moulin et puis Christine Musselin.
Alors si, moi je pense que c'est effectivement une bonne idée. Il y a un candidat ou une candidate à la présidentielle qui le propose, je me souviens plus là qui c'est exactement, mais effectivement je pense que ça permettrait aux étudiants d'avoir plus d'informations pour s'orienter dans l'enseignement supérieur. Surtout qu'on s'aperçoit quand on regarde assez finement comment les étudiants construisent leur choix pour rentrer dans l'enseignement supérieur, on voit qu'il y a beaucoup d'effets mimétiques en fonction de l'origine sociale par rapport aux choix que vont faire leurs camarades, par rapport aux choix qu'on fait leurs aînés, etc. Et fournir plus d'informations aux néo-bacheliers permettrait effectivement, sans doute, de leur faire prendre conscience de toutes les opportunités.
D'avoir les paramètres clairs sous la main, Sonia.
Mais ça risquerait peut-être de mettre en concurrence les universités, du coup.
Alors, en garantissant effectivement que le diplôme vaut la même chose sur le territoire.
Oui, ça c'est un prérequis, ouais. Hein, comme on disait tout à l'heure. Christine Musselin.
Oui, et en tenant compte du type d'étudiants qu'on a dans chaque établissement, parce que un peu comme pour le bac, où on regarde un petit peu quel est le taux de réussite en fonction de la population que fréquente le lycée, je pense qu'il faudrait faire la même chose à l'université, et puis empêcher les mécanismes qu'on a pu voir. À un moment donné, il y avait un classement des masters en fonction de l'insertion professionnelle. On voit bien que la deuxième à la dernière année de master, le master 2, il y a une barrière à l'entrée, enfin il y avait une barrière à l'entrée du master 2 jusqu'à récemment, et finalement ça permettait aux universités de garder, certaines universités, de ne garder que des étudiants qui ensuite trouvaient un placement aisé. Donc il y a plein de mécanismes pour jouer avec ça, donc il faut quand même aussi se méfier de ce qu'on affiche dans ces cas-là.
Allez, direction le Standard, je salue Manuel qui nous appelle de Bordeaux, bienvenue.
Oui, allô ?
Oui, on vous écoute Manuel.
Oui, bonsoir. Voilà, donc je voudrais surtout témoigner d'une impression que j'ai. Donc je suis chercheur au CNRS depuis 99, je suis citoyen espagnol et j'ai fait mes études dans une université allemande et suisse. Et donc quand j'arrive ici, côté recherche, j'aurai beaucoup de choses à dire, j'ai plutôt des très bonnes expériences. Mais quand je demande des choses sur l'université à mes collègues ou aux étudiants, on me dit « Ah oui, non, Manuel, ça non, ça c'est pas l'université, ça c'est, il faut regarder dans les grandes écoles, ça on fait pas ici. » Et donc j'ai un peu l'impression que l'université c'est la deuxième classe, et je pense aussi que les étudiants seront bien contents, et qu'ils quittent l'université en licence pour faire une autre sorte d'école, et donc et que les interlocuteurs qu'on a au ministère ou dans les autres instances sont tous ou presque tous des grandes écoles. Donc je me demande si ce système à deux vitesses est vraiment voulu et combien de temps il va tenir et si c'est vraiment une bonne idée. J'ai rien contre un système élitiste et qui favorise les meilleurs, mais un système élitiste et qui favorise les meilleurs et condamne les autres à être en deuxième classe tous les temps, je me demande quel est le sens de tout ça.
Merci beaucoup Manuel pour cette question. Léonard Moulin, vous voulez répondre ?
Alors, le témoignage est intéressant puisque je pense qu'il est vécu aussi par beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui intériorisent ça au moment de faire leur choix pour aller dans l'enseignement supérieur, à savoir est-ce qu'ils vont dans une grande école, faire une classe préparatoire ou à l'université. Et effectivement, je pense que mais ça revient vraiment à la question de l'auditeur précédent, d'Amine, sur le fait qu'ensuite les diplômes valent pas la même chose en fonction de si on fait une université ou une grande école. Une des solutions qui pourrait être envisagée et qui est envisagée par au moins un des candidats, c'est justement de supprimer partiellement, en tout cas dans un premier temps, mais d'essayer de remettre à plat le système pour avoir plus d'égalité et pour pas avoir un système qui, alors ça se fait encore plus tôt, mais qui en tout cas à 18 ans, trie les étudiants en fonction alors de leur capacité à avoir un concours, mais derrière c'est leur milieu social d'origine qui va les trier.
Christine Musselin, et puis sur le fait que le ministère est dirigé, en tout cas dans son administration, par des anciens des grandes écoles.
Alors ça c'est vrai et faux, parce que quand on regarde les directeurs...
on a une explication claire
les DGRI,
sur les choses.
La Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, ce sont d'anciens professeurs des universités. Donc on est quand même au ministère en tous les cas de l'Éducation nationale et de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les responsables administratifs, les directeurs, ne sont pas passés par les grandes écoles. Ils sont eux-mêmes professeurs des universités le plus souvent. Mmh. Parfois même le ministre est-il professeur des universités. Mais moi je trouve un petit peu dommage de ramener tout le temps l'université uniquement au côté étudiant et enseignement, et d'oublier quand même que, en revanche, en matière de recherche, c'est le lieu, alors avec les organismes de recherche, et en particulier ceux qui ont labellisé les équipes de recherche à l'intérieur de l'université, CNRS, l'INSERM, mais c'est quand même le lieu où se fait la recherche en France. Voilà, c'est un petit peu les deux visages qu'on peut donner de l'université française. D'un côté, effectivement, c'est elle qui accueille tous les étudiants dont ne veulent pas les grandes écoles dans une certaine mesure, et donc de ce fait, c'est vrai que ça crée beaucoup de problèmes à l'intérieur de l'université, mais c'est aussi le lieu quand même où se fait la recherche en France.
Une question sur les proposition des différents candidats à l'élection présidentielle. Léonard Moulin, vous avez lu de près les programmes. Est-ce qu'il vous semble de qualité ces programmes? Si oui, est-ce qu'il y en a un qui se détache? Est-ce qu'il y a de véritables clivages dans ce que vous avez pu lire? Ou au fond, est-ce que l'enseignement supérieur et la recherche sont des domaines largement consensuels aujourd'hui?
Alors, je vais pas prendre position pour aucun candidat ou candidate, mais effectivement, il y en a qui sont assez fouillés, d'autres beaucoup moins poussés, et je pense qu'ils dessinent des modèles de société qui sont totalement différents. Donc ensuite, à chacun et à chacune
de s'y retrouver,
voilà, en fonction de ce qu'on veut. Mais si on part de ce qu'il y a de plus à droite sur l'échiquier politique, on a plutôt, j'ai l'impression, une orientation assez conservatiste et dirigiste de ce que peut être la recherche, avec notamment une continuité dans le principe de concurrence et de faire en sorte que la recherche en France soit dictée par les priorités au niveau du tissu économique. Pour François Fillon et Emmanuel Macron, j'ai l'impression que les programmes sont relativement similaires, à savoir des orientations qui sont plutôt libérales, au service des intérêts privés et dans une certaine mesure, en tout cas beaucoup plus pour François Fillon, d'un désengagement de l'État. La politique de Benoît Hamon est plutôt en continuité, ce qui est relativement logique. Il a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous François Hollande, donc elle est en continuité avec un soutien aux étudiants, mais ce qui là encore est totalement logique, puisqu'on a eu une réforme importante des bourses sous le gouvernement de François Hollande. Et ensuite... Le programme de Jean-Luc Mélenchon dessine un modèle un peu différent, en plaçant l'université, alors là plus au sens de la formation, au service des citoyens, et il propose d'augmenter les financements de l'enseignement supérieur de manière relativement importante. Voilà.
Bah écoutez, c'est un beau panorama. Christine Musselin, comment avez-vous lu ces différents programmes ?
À peu près de la même façon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à proposer l'augmentation du budget. On a la même chose chez Hamon. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que finalement, dans la proposition de Mélenchon, on revient quand même à une situation qui me semble très difficile à mettre en place. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est face à un système où tous les étudiants sont semblables, où tous les profs sont semblables, et quelque part, je pense que c'est la situation qu'on avait peut-être en France, je sais pas, dans les années 40-50, quand on avait un petit système universitaire fréquenté par très peu d'étudiants.
Très homogène.
Là, il y a tellement d'emplois à pourvoir différents hein, dans leur nature, dans les compétences à acquérir. Il y a tellement d'étudiants différents. Je vois mal comment on peut avoir quelque chose d'aussi peu différencié, aussi piloté par le centre. Et je vois pas comment on pourrait revenir à une situation de ce type-là. Alors, peut-être pour dire quand même quelque chose sur le clivage droite-gauche, c'est vrai que
oui, est-ce qu'il existe encore voilà, en la matière
on le voit dans les programmes. Mais on le voit pas du tout dans les politiques. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe quand même, je travaille sur l'enseignement supérieur depuis très longtemps maintenant, c'est qu'il y avait quand même une grande continuité entre les réformes qui ont été menées à la fin des années 80, sous Lionel Jospin, et donc la mise en place des contrats quadriennaux, etc., jusqu'à la loi Pécresse qui finalement donnait plus d'autonomie aux établissements, mais c'est une construction un petit peu linéaire, alors qu'on a eu des changements politiques et des changements, majeur, des alternances hein, pendant cette période-là. Donc il y avait quand même une certaine continuité, je dirais une accélération, c'est plus de compétition, ça c'est net, mais en même temps une grande continuité. Quand on lit les programmes, là effectivement, on a l'impression que ça va être très différent selon le candidat qui va être élu.
La parole à Louis, 23 ans, qui a fini une partie de ses études en juillet. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute, Louis.
Merci d'organiser cette émission sur ce thème.
Merci à vous d'y participer.
Alors, je vous appelle parce que, oui, donc comme vous l'avez dit, j'ai fait mes 3 années de licence en France et ensuite 2 années de master en Angleterre. Et vraiment, cette expérience est très intéressante pour moi parce que j'ai vécu un véritable contraste.
Expliquez-nous.
Les 3 années en France, c'était vraiment dur, c'était une souffrance, c'était souvent humiliant, et puis c'était pas très rassurant. Et puis je suis arrivé en Angleterre, et là c'était tout le contraire, quoi. C'était vraiment une libération, c'était intéressant, c'était enrichissant, aussi bien au niveau intellectuel que social. Donc, moi j'arrive pas à m'expliquer pourquoi c'est le cas. Et si jamais il y a une réponse, pour moi ça ne doit pas être une fatalité. Mmh. Et ça devrait faire partie des premières choses à changer en France pour moi. Et la deuxième aspect de ma question, c'est aussi le fait que là je réfléchis à faire un doctorat. Si je le fais, ce sera sûrement pas en France, ce sera plutôt en Angleterre. Mmh.
Juste une question, le mot est fort, vous avez dit humiliant pour le système français. Expliquez-nous, Louis.
Je pense que c'est partagé par beaucoup de gens. Ce sentiment, c'est très simple, rien que les notes. C'est très dur dans une université française d'avoir des bonnes notes. On travaille beaucoup pour décrocher des 12, des 13, des 14. Et on le voit d'ailleurs, hein, les moyennes générales sont souvent autour de 10, 11. En tout cas dans les milieux dans lesquels que moi je connaissais. Et quand on a un 15, c'est le Graal. Donc rien que ça, la première récompense d'un étudiant, c'est un peu bête, mais c'est comme ça. Rien que ça, c'était vraiment flagrant, quoi. Et puis aussi, le silence. Pour moi, le principe du cours magistral est un peu humiliant. C'est-à-dire que on est là, on est un peu considéré comme des gras de papier qui ont pas l'air d'ouvrir la bouche. Moi, je me souviens un jour, j'avais posé une question en cours magistral et j'avais l'impression d'avoir violé la plus grande des règles de l'humanité.
Jamais, Louis, de questions en cours magistral, vous êtes fou. Vous travaillez dans quel domaine?
Moi, j'ai fini mes études en juillet, donc j'ai fait un stage aux Nations Unies après.
Et vous vouliez faire un doctorat alors?
Mais c'est plutôt dans le milieu des relations internationales, du droit international.
Merci beaucoup, Louis, pour cette intervention. Humiliation, note, cours magistral, le tableau est sévère par rapport à nos amis anglais. Qui veut dire un mot? Christine Musselin.
Ouais, c'est-à-dire que les premières années, quand même, sont faites finalement pour sélectionner à l'université très souvent. Donc, effectivement, quand on sélectionne, on met des notes qui ne sont pas très valorisantes. Et comme il y a énormément de monde, Voilà, c'est un petit peu ce qu'on, ça rappelle ce qu'on disait tout à l'heure.
Léonard Moulin.
Oui, j'abonderais totalement dans le sens de Christine Mussin. Je pense que la première année, et puis même les premières années de licence, servent à sélectionner les étudiants, ce qui montre bien que la sélection peut être un faux débat. J'aimerais juste revenir sur le problème du cours magistral que Louis décrivait. Je pense qu'il vient notamment du fait qu'on a une grande différence de financement entre les classes préparatoires et les universités, donc les universités où on a des cours magistraux et des TD. Et
C'est-à-dire un prof pour beaucoup de monde.
Voilà,
c'est ça.
Les classes préparatoires.
C'est un modèle économique, le cours magistral.
C'est ça, et les classes préparatoires aux grandes écoles et les filières sélectives post-bac fonctionnent plus sur le mode des petites classes, comme les étudiants connaissent au lycée. Et je pense qu'effectivement, arrivé dans l'enseignement supérieur, lorsqu'on se retrouve dans un amphithéâtre, on est totalement bouleversé. C'est le sentiment d'humiliation, de souffrance qu'il essayait de transmettre dans son témoignage. Et une des solutions pour essayer de dépasser ça, c'est sans doute, alors c'est expérimenté dans certaines universités, d'essayer de faire des classes effectivement beaucoup plus effectives, de supprimer un peu les cours magistraux et de se rapprocher d'un enseignement beaucoup plus actif pour les étudiants.
Merci à tous les trois, Christine Musselin, Léonard Moulin, Sonia Bourhan. Christine Musselin, la grande course des universités aux presses de Sciences Po. Léonard Moulin, arrêtons les frais, !, pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, raison d'agir, publié en 2015. Merci Sonia, journaliste spécialiste des questions d'éducation à France Inter. Et merci à vous, amis auditeurs d'Inter. Je dis pas qu'on a fait le tour de la question, loin de là, mais il nous semblait intéressant quand même, avant le premier tour, d'aborder ce sujet qui me semble crucial pour le pays au 21e siècle et qui a totalement disparu des écrans radars. Merci encore à tous.